la parole de ce vendredi 14 novembre 2025, vendredi de la 32e semaine du temps ordinaire, année impaire. Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre ton oreille à ma plainte, Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète, et en donnant plus que nous n'osons demander. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Première lecture. S'ils sont capables d'avoir une idée sur le cours éternel des choses, comment n'ont-ils pas découvert celui qui en est le maître? Lecture du livre de la Sagesse au chapitre 3, les 9 premiers versets. Des natures, ils sont inconsistants, tous ces gens qui restent dans l'ignorance des dieux. À partir de ce qu'ils voient de bon, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est. En examinant ses œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan. Mais c'est le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence des flots, les luminaires du ciel gouvernant le cours du monde, qu'ils ont regardés comme des dieux. S'ils les ont pris pour des dieux, sous le charme de leur beauté, ils doivent savoir combien le maître de ces choses leur est supérieur, car l'auteur même de sa beauté est leur créateur. Et si c'est leur puissance et leur efficacité qui les ont frappés, ils doivent comprendre à partir de ces choses combien est plus puissant celui qui les a faites. Car à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler par analogie leur auteur. Et pourtant, ces hommes ne méritent qu'un blâme léger. Car c'est peut-être en cherchant Dieu et en voulant le trouver qu'ils se sentent égarés. Plongés au milieu de ses œuvres, ils poursuivent leurs recherches et se laissent prendre aux apparences. Ce qui s'offre à leurs yeux est si beau. Encore une fois, ils n'ont pas d'excuses. Ils ont poussé la science à un degré tels qu'ils sont capables d'avoir une idée sur le cours éternel des choses, comment n'ont-ils pas découvert plus vite celui qui en est le maître? Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi Seigneur, au 17e chapitre du 26e, au 37e verset. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme cela s'est passé dans le jour de Noé, ainsi en sera-t-il dans le jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans le jour de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ces jours-là, celui qui est sur la terrasse aura ses affaires dans sa maison, qui ne descendent pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie, la perdra. Et qui la perdra, la sauvegardera. Je vous l'ai dit, cette nuit-là, deux personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. Deux femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront des vautours. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, chers internautes, vendredi de la 32e semaine du temps ordinaire, année impaire. L'esprit critique. Hier, nous parlions de la sagesse comme capacité de discerner les biens et les mal, la vérité et les mensonges. Aujourd'hui, nous voyons à travers la première lecture, sagesse 13 de 1 à 9, que la sagesse, c'est aussi savoir critiquer, savoir remettre en cause. Critiquer, non pas à travers la médisance, mais critiquer pour mieux choisir, pour prendre des options qui valent la peine dans la vie. Dans la première lecture, l'auteur sacré, la géographe, l'auteur de ce livre de la sagesse, est en train de faire une lecture critique de la sagesse des différents peuples. Comme je vous l'ai dit souvent ces jours-ci, le livre La Sagesse est rédigé dans un contexte de crise, crise d'identité, parce que les Juifs ont leur sagesse, leur tradition religieuse, leur conception de Dieu, conception de l'homme, conception du monde, mais sont confrontés à d'autres conceptions des dieux, du monde, de l'autre. La façon dont les Grecs concevaient le monde, Dieu et l'homme, les Romains, les Égyptiens, ainsi de suite, comment ils concevaient le monde, Dieu et puis l'homme. C'est différent de ce que dit la Bible. Et certains Juifs sont un peu en crise. Ils commencent à copier de façon servile les coutumes des Grecs, des Romains, ainsi de suite. Voilà pourquoi le livre de la sagesse est rédigé, pour inviter les Juifs à rester fidèles à leur identité religieuse, à leur conviction religieuse. L'auteur fait donc une critique. Il dit, tout ce peuple, leur sagesse, n'est-ce pas, malheureusement, ne leur a pas permis de découvrir le vrai Dieu. À partir de ce qu'ils voient de bon, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est. En examinant ses œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan. Ils ont commencé à adorer les créatures au lieu de chercher les créateurs. Ils ont commencé à adorer les créatures. Voilà la critique que l'auteur du livre La Sagesse formule contre la sagesse des différents peuples, l'idolâtrie. C'est-à-dire, au lieu d'adorer Dieu, ils ont commencé à adorer les créatures. Ils ont oublié celui qui a créé ses œuvres. Ils s'accrochent aux œuvres, oubliant les créateurs des œuvres, l'idolâtrie. Voilà pourquoi ils vont dire, par exemple, ils adorent les luminaires des cieux, ils adorent le soleil, ils adorent la lune, ils adorent les étoiles. Parce que justement, au lieu d'aller au-delà des créatures pour découvrir les créateurs, le vrai Dieu, ils se sont accrochés aux créatures, faisant d'elles leurs idoles. Chers auditeurs, chers internautes, notre contexte est vraisemblable. On s'accroche souvent aux créatures, oubliant les créateurs. On accorde beaucoup plus d'importance aux créatures qu'aux créateurs. Et même quand on approche le Créateur durant la prière, c'est pour lui demander des choses de ce monde. Nous voulons nous accaparer de certaines des créatures. Nous voudrions les avoir avec nous. L'argent et tant d'autres créatures qui sont devenues pratiquement des idoles aujourd'hui. Même le téléphone est parfois une sorte d'idole. Les téléphones, la connexion Internet, il faut à tout prix se connecter. Si on n'est pas connecté, on a l'impression que la vie n'a plus de sens. C'est vrai, on a besoin de la connexion, mais Dieu est plus important que la connexion. Et on veut se connecter à quoi? On se préoccupe de la connexion. Pour se connecter, être en contact avec les autres, accéder aux réseaux sociaux, mais souvent, on oublie une chose. Il faut d'abord se connecter à Dieu. La connexion avec Dieu. dans la prière, dans la méditation, dans la réflexion, dans la contemplation. On a oublié de se connecter avec Dieu. Dès qu'on se réveille le matin, au lieu de se connecter avec Dieu, on se connecte d'abord à travers l'Internet pour communiquer tout de suite. Le téléphone est devenu une véritable idole. On se réveille avec le téléphone, on dort avec le téléphone, on a oublié Dieu. Chers auditeurs, chers internautes, voilà les grands défis que nous avons aujourd'hui. À l'époque où l'auteur sacré écrivait les livres de la sagesse, il y avait des idoles. Le feu, la lune, les étoiles, c'était parmi les idoles que les gens adoraient, les créatures que les gens adoraient à l'époque, l'idolâtrie. Aujourd'hui, il y a d'autres formes d'idolâtrie, d'autres formes d'idoles, notamment des idoles modernes, comme les téléphones, comme la connexion Internet. Il faudrait considérer que Dieu est plus grand que les téléphones. Il est plus important que les téléphones. Dieu, la connexion avec Dieu est plus importante que la connexion à l'Internet. Quand vous vous réveillez le matin, qu'est-ce que vous faites du coup? Est-ce que vous pensez à Dieu? Vous cherchez d'abord à vous connecter avec Dieu? Ou bien vous cherchez d'abord la connexion aux réseaux sociaux? À chacun de répondre, d'y réfléchir, de méditer. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus voudrait rappeler justement à ceux qui ont perdu de vue que le monde est dirigé par Dieu qui a les derniers mots. Jésus voudrait rappeler à ceux-là qu'attention, il y aura un point final un jour. Luc 17, de 26 à 37, il y aura un point final. Dieu dira le dernier mot. Il va mettre le point final à l'histoire de l'humanité. C'est Dieu qui le fera. Le dernier mot sera prononcé par Dieu. Le dernier point, le point final dans l'histoire. Parfois, on perd de vue tout cela. On est un peu, on se laisse entraîner par le cours de l'histoire. On se réveille, on dort, on se réveille. On fait ce qu'on a toujours fait, on dort. Et puis on se réveille demain, ça devient une sorte de routine. On a oublié que ça peut s'arrêter un jour. Souvenez-vous de la pandémie, il y a quelques années. Les gens buvaient, les gens mangeaient, les gens voyageaient, les gens payaient, il y avait des transactions commerciales et autres. Les gens sortaient de chez eux, allaient là où ils voulaient aller. Mais, à un certain moment, tout s'est arrêté. Aéroports fermés. Des ports fermés. Certains lieux publics qu'on fréquentait régulièrement ont été fermés. Tout était arrêté à un certain moment. N'oublions pas cela. Qui avait prévu? Qui le savait que les aéroports seront fermés? Non. Il y en a qui ont été bloqués à l'extérieur. Ils ne savaient plus revenir parce que ils sont partis et puis l'aéroport est fermé à cause de la pandémie. Ils ne savaient plus revenir. Il y en a qui ont vécu ça. Ce sera un peu ça la fin du monde. Au moment où on s'y attend le moins, tout va s'arrêter. Mais cette fois-là, tout s'arrêtera définitivement. Tout s'arrêtera définitivement. Ce sera le jugement dernier. Et on passera à autre chose. C'est-à-dire, le monde est fini. C'est la fin du monde. Et on commence une nouvelle ère de la vie de chacun de nous. La résurrection pour les justes. La damnation éternelle. Pour ceux qui n'auront pas marché dans la crainte du Seigneur. C'est ça l'évangile d'aujourd'hui. Cet évangile voudrait nous inviter à nous rappeler d'un passé récent de l'humanité, l'époque de la pandémie. Comment tout s'était arrêté alors qu'on s'y attendait le moins. On a été pris à contre-pied par la pandémie. Ça, c'est une épidémie. C'est l'épidémie qui a fait irruption dans l'histoire, une pandémie. Et du coup, ça s'est arrêté. On a été pris à contre-pied. Et quand le Fils de l'homme viendra, à la fin des temps, ce sera comment? Il faut y penser. Et ce qui nous est demandé, c'est justement d'être sage, de vivre la sagesse, la véritable sagesse. La sagesse, eh bien, c'est l'accueil de Dieu dans notre vie. Accueillir Dieu, faire de lui notre priorité. Que nos cœurs soient tournés vers Dieu, c'est ça le sage, au sens chrétien du mot. Son cœur est tourné vers Dieu et détaché des idoles de ce monde. Le sage, c'est celui dont le cœur est tourné vers Dieu, le vrai Dieu, et détaché, le cœur détaché des idoles de ce monde. Il faut remettre le téléphone à sa place. Nous en avons besoin. Ce n'est pas plus important que Dieu. C'est important, parfois à certaines heures de la journée, de s'éloigner de son téléphone. Parce qu'on a une urgence, on doit travailler d'arrache-pied, parce qu'on doit prier, il faut mettre cela de côté. Qui ne parvient pas à éloigner son téléphone pour prier, il a fait de son téléphone une idole. Celui qui, pendant la prière, au lieu de se concentrer, est capable d'interrompre la prière parce que le téléphone sonne, a fait de son téléphone une idole. Celui qui, dès le matin, se préoccupe de la connexion Internet, au lieu de se préoccuper de la connexion spirituelle, connexion avec Dieu, c'est lui-là qui se préoccupe plus de la connexion Internet que de la connexion spirituelle avec Dieu, a fait de la connexion de l'Internet une idole. Chers auditeurs, chers internautes, que les propos entendu dans la première lecture, la sagesse dont il est question dans la première lecture, inspire notre façon de voir les choses, notre façon de vivre. Puissions-nous avoir nos cœurs tournés vers Dieu et détachés des idoles de ce monde. Cet évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile d'espérance. Il nous rappelle que rien n'est éternel sauf Dieu. Tout passe. Et parce que tout passe, ayez l'espérance. Votre souffrance aussi passera. Votre maladie passera. L'expérience malheureuse que vous faites en prison passera. Les guerres finiront un jour, quand tout va s'arrêter. Parce que le Christ est là pour le jugement dernier. Tout ce qui nous fait souffrir, ce qui est cause de votre malheur, de votre souffrance, tout cela disparaîtra. Voilà pourquoi cette espérance-là doit nous donner aussi la joie. Rien n'est éternel. Même votre souffrance, votre peine, l'épreuve que vous endurez n'est pas éternelle. Ça passera. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. liturgie de la parole de ce jeudi 13 novembre 2025, jeudi de la 32e semaine du temps ordinaire, année impaire. Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre ton oreille à ma plainte, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Première lecture. La sagesse est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité des dieux. Lecture du livre de la sagesse au chapitre 7. Il y a dans la sagesse un esprit intelligent et saint, unique et multiple, subtil et rapide, perçant, né, clair et intact, ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr et paisible, tout-puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, même le plus intelligent, le plus pur, le plus subtil. La sagesse, en effet, se meut d'un mouvement qui surpasse tous les autres. Elle traverse et pénètre toutes choses à cause de sa pureté, car elle est la respiration de la puissance des dieux, l'émanation toute pure de la gloire du souverain de l'univers. Aussi rien de souillé ne peut l'entendre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité des dieux, l'image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout, et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers. D'âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes pour en faire des prophètes et des amis des dieux. Car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Elle est plus belle que le soleil, elle surpasse toutes les constellations, et si on la compare à la lumière du jour, on la trouve bien supérieure, car le jour s'efface devant la nuit. Mais contre la sagesse, le mal ne paie rien. Elle déploie sa vigueur d'un bout du monde à l'autre. Elle gouverne l'univers avec bonté. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au 17e chapitre, du 20e au 25e verset. En ces temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit: la venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas: voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples: des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira: voilà, il est là, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet,
comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme. Quand son jour sera là, mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus, chers auditeurs, chers internautes, la sagesse. Éloge à la sagesse. Un poème merveilleux, très beau sur la sagesse. C'est la première lecture d'aujourd'hui. Sagesse 7, du 22e verset jusqu'au 8e chapitre, premier verset. Qu'est-ce que la sagesse n'est pas? La sagesse est tout ce qu'il y a de beau, de bien, de bon dans le monde. C'est ça la sagesse. Un esprit intelligent et sain, unique et multiple, subtil et rapide, perçant, net, clair et intact, ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr et paisible, tout-puissant, et observant tout, pénétrant tous les esprits. Éloge à la sagesse. Les Juifs qui écoutaient ce texte, nous sommes au premier siècle de notre ère, étaient confrontés à la sagesse grecque, la philosophie grecque, mais aussi la sagesse romaine, la culture romaine. Il faut leur faire comprendre que la sagesse biblique, celle de l'Ancien Testament, dépasse toutes sortes de sagesse. Ils sont aussi en Égypte et dans la tradition égyptienne, ils ont aussi leur sagesse, mat. Il faut donc insister sur l'importance de la sagesse de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte qui est semblable à celui dans lequel se trouvaient les Juifs au premier siècle. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le monde? Beaucoup de choses se sont développées. Les nouvelles technologies, tant d'autres choses. Les progrès technologiques. Face à tout cela, le Seigneur nous rappelle à travers la première lecture d'aujourd'hui qu'il faut rester fidèle à son identité. Les réseaux sociaux, nous y sommes tous. Mais l'important, c'est de se comporter dans ce monde, dans le monde numérique, dans le monde en général, en restant fidèle aux exigences de l'Évangile, aux exigences de notre foi. Il faut apprendre à discerner. Discerner toujours ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Le discernement. La sagesse est aussi discernement. C'est ce qui ressort de la première lecture aujourd'hui. Une sagesse qui pénètre tous les esprits, même le plus intelligent, le plus fort, le plus subtil. La sagesse, en effet, s'émeut d'un mouvement qui surpasse tous les autres, et traverse et pénètre toute chose à cause de sa pureté, car elle est la respiration de la puissance de Dieu. Les discernements dans le monde d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que vous voyez dans les réseaux sociaux, mais apprenez à discerner. Vous ne pouvez pas tout partager. Vous ne pouvez pas tout lire. Vous ne pouvez pas tout regarder. Il y a des images qu'il faut effacer tout de suite, éliminer de votre téléphone. C'est ça, être sage, le discernement. À l'époque de Jésus, ses contemporains sont aussi confrontés au discernement. Le règne de Dieu, est-ce que le règne de Dieu est déjà là ou bien il n'est pas encore là? Il faut discerner. Où est le règne de Dieu et où est-ce que Dieu ne règne pas? La question posée par les pharisiens est intéressante. Quand viendrait le règne de Dieu? En fait, les pharisiens, nous sommes au premier siècle de notre ère, les pharisiens attendent le règne de David. C'est ça le souhait de la plupart des Juifs à l'époque. Ils voudraient le règne de David, restaurer le règne de David. Dans les Actes des Apôtres, au premier chapitre, la dernière conversation entre Jésus et ses apôtres. Jésus et les onze, avant l'ascension de Jésus au ciel, ils sont en marche vers Béthanie et du coup, les apôtres demandent à Jésus, c'est maintenant que tu vas restaurer le règne de David. Parce que même pour les apôtres, c'est ça. On attendait le règne de David. C'est-à-dire qu'il y ait un roi qui est comme David. Un roi qui est imposant, un roi qui fera respecter les Juifs, un roi qui fera que les Juifs puissent de nouveau redevenir un peuple honorable, noble, comme à l'époque de David. On attendait le règne de David. Contre toute attente, Jésus vient. Dès ses premières paroles dans l'évangile de Marc, Jésus dit, convertissez-vous, le règne de Dieu est tout proche. Jésus n'est pas venu apporter le règne de David. Il n'est pas venu pour restaurer le règne de David. Il est venu pour que Dieu règne. Il est venu nous apporter le règne de Dieu. Les gens sont un peu surpris. On s'attend au règne de David, les royaumes de David, et maintenant, ils parlent du règne de Dieu. Et d'où la question. Quand viendrait alors le règne de Dieu dont vous parlez? Jésus dit, la venue du règne de Dieu n'est pas observable. Ils s'attendent à l'irruption spectaculaire de Dieu dans l'histoire. Que Dieu fasse irruption dans l'histoire de façon spectaculaire, en confondant tous les adversaires des Juifs. Irruption spectaculaire de Dieu dans l'histoire. C'est à cela que beaucoup s'attendent, le règne de Dieu. De façon spectaculaire. Jésus dit non, ce n'est pas observable. On vous dira, il est ici, il est là, mais discernez. Parce que le règne de Dieu, comme le dira Paul dans la lettre aux Romains, le règne de Dieu, c'est pas question de nourriture. Le règne de Dieu, c'est d'abord des valeurs. La justice, la paix et tant d'autres valeurs. Jésus est venu justement pour cela, pour des valeurs spirituelles, valeurs chrétiennes, la paix, l'amour, la vérité, la justice et tant d'autres valeurs. Dieu règne là où il y a ces valeurs. C'est peut-être ce à quoi nous nous attendons tous. C'est à quoi vous vous attendez, vous qui nous suivez dans des hôpitaux, dans des prisons. Vous voulez l'irruption des dieux dans votre histoire. Que Dieu intervienne, qu'il fasse des miracles dans votre vie, dans notre vie. Devant la souffrance, devant la guerre, qu'il intervienne de façon spectaculaire pour confondre ceux qui vous font souffrir, pour confondre vos adversaires. Ça, c'est l'attente des Juifs au premier siècle aussi. Que Dieu intervienne dans votre vie de façon spectaculaire. Jésus dit non. Ce qui est important, c'est d'abord les valeurs. Ce qui est important, c'est que vous vous convertissiez d'abord, que vous viviez l'évangile de la justice, de la vérité, de la paix, de l'amour, des valeurs. Lorsque on se met à vivre ces valeurs-là, à les promouvoir, c'est alors que votre vie va changer. C'est alors que le monde va changer. C'est ça le règne de Dieu. Et c'est lui qui nous apporte le règne de Dieu, c'est-à-dire le Messie. Jésus, il n'est pas un Messie au sens où l'entendaient les Juifs, les contemporains de Jésus au premier siècle. Un Messie qui s'impose dans la société. Un Messie qui prend le pouvoir dans la société. Il dit qu'il est Messie souffrant. Voilà pourquoi à la fin de cet évangile, il dit, avant cela, mais auparavant, avant que le règne de Dieu ne puisse apparaître réellement dans le monde, il faut qu'il souffre beaucoup. et qu'il soit rejeté par cette génération. La souffrance. La souffrance a un sens salvifique, salutaire pour nous les chrétiens. La souffrance n'est pas une humiliation. Souffrir ne signifie pas que vous êtes rejeté par Dieu. Vous qui nous suivez, là vous êtes en train de traverser des moments difficiles, peut-être en prison, peut-être dans des hôpitaux, vous pouvez donner un sens à votre souffrance. Jésus est passé par la souffrance avant la résurrection, avant l'ascension. Parfois, Dieu nous fait passer aussi à travers des épreuves diverses. L'épreuve que vous endurez, ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'un passage. Le dernier mot appartient à Dieu. Ça n'appartient pas à ceux qui vous font souffrir. C'est Dieu qui a les derniers mots. Que Dieu dise les derniers mots dans votre vie, dans notre humanité. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.